Bienvenue pour votre nouveau rendez-vous avec l'école Ferrandi Paris, un podcast d'inspiration sur les grandes problématiques de la restauration et de l'hospitalité. Tous les mois, experts, chefs, dirigeants, hôteliers, sommeliers, pâtissiers, designers, professeurs échangent sur les innovations et les best practices du secteur et partagent leur vision de l'hôtellerie-restauration de demain. Aujourd'hui au menu, la critique gastronomique à l'heure des réseaux sociaux. À l'heure où les étoiles tombent en ce début d'année, n'oubliez pas que sur Facebook, Instagram, YouTube et autres TikTok, le hashtag food est aujourd'hui le 20e le plus populaire à l'échelle mondiale. Autant vous dire que la question intéresse beaucoup de monde et que la concurrence est rude sur la planète restauration. Comment la pandémie et le confinement ont rebattu les cartes sur la scène de la critique gastronomique et plus largement de la food? 3 étoiles ou 300 000 followers, qu'est-ce qui va remplir le restaurant? Un chef peut-il exister sans les réseaux sociaux? Pourquoi les chroniqueurs gastronomiques ont encore de beaux jours devant eux? Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder avec nos invités. Autour de la table aujourd'hui chez Ferrandi Paris. Nous avons la chance d'avoir le chef Arnaud Donquel. Bonjour.
Bonjour.
En plus, vous êtes un peu chez vous puisque vous êtes passé il y a quelques années par l'école Ferrandi. Vous êtes aussi passé par le Louis XV d'Alain Ducasse à Monaco. Ducasse qui n'a cessé de vous suivre. 27 ans, 2004, vous devenez chef du restaurant La Vague d'Or à Saint-Tropez. 3 étoiles Michelin depuis 2013. 2016, 19 sur 20 au Goemio, au moment où LVMH rachète l'hôtel pour en faire un cheval blanc. Élu plus grand chef étoilé du monde par ses pairs, ça c'était de fin 2018. Et depuis quelques mois, vous dirigez également des cuisines de l'hôtel Cheval Blanc Samaritaine à Paris. On y reviendra dans un instant. François-Régis Gaudry, est-ce qu'on vous présente? Oui, quand même, journaliste, auteur de plusieurs ouvrages, critique gastronomique. Vous avez également 2 émissions. On va déguster sur France Inter, très très bon sur Paris Première. Et depuis la rentrée, François-Régis, vous êtes également sur les deuxièmes parties de soirée de Top Chef sur M6. Avec tout ça, vous trouvez encore le temps d'alimenter vos réseaux sociaux. 250 000 abonnés sur Instagram. Et puis, avec nous également, nous avons la chance d'avoir Constance Lasserre. Bonjour.
Bonjour.
École de commerce, études de théâtre. Après un stage à New York il y a 4 ans, la passion de la food vous attrape. Vous vous lancez sur Instagram sous le nom de Hungry Consti. En janvier dernier, vous entamez un marathon de dégustation de galettes des rois, une présentation face cam. Et alors là, ça décolle. 47 000 followers depuis septembre. Vous vivez même de cette activité d'influenceuse food. Vous allez nous raconter ça. Alors chef, Arnaud Donquel, vous qui êtes étoilé, on l'a vu, multi-récompensé, qu'est-ce que vous regardez le plus finalement? Qu'est-ce qui vous importe le plus? Les avis des clients sur TripAdvisor, les critiques dans les médias, les posts qui vous mentionnent, la sortie des guides Michelin et Goemio, ça fait beaucoup?
Oui, ça, c'est un peu comme... finalement, on est sorti d'école scolaire, mais on est jugé tout le temps. On a des résultats à avoir, mais je pense sincèrement que c'est un ensemble de choses. Voilà, l'avis des clients est, à mon avis, pour moi, le plus important. C'est le ressenti qu'on peut avoir, le ressenti qu'on peut avoir pour nos collaborateurs qui ressentent ça. Après, bien évidemment, on fait... je pense que le reste, c'est la conséquence, en fait, du travail d'équipe et de nos clients, voilà, de la manière dont on fait les choses. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, prennent une place folle. À partir du moment où on est aussi, c'est comme les restaurants, il n'y a pas tant que ça de très bons restaurants et il n'y a pas forcément tant que ça de bons sites et de bons réseaux. Voilà. Donc c'est juste de prendre considération de ce qu'est un bon site, de ce qu'est un bon blog, de ce qu'est un bon... avec la subjectivité qui... il y a toujours une part de subjectivité. Moi, je dis toujours... j'ai beaucoup de mal à recevoir les compliments parce que ce qui m'intéresse pas, d'ailleurs ça ne m'intéresse pas vraiment les compliments. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'entends pas. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi là il n'y a pas de réaction. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de réaction? Ça, c'est intéressant. Après, regarder l'évolution, c'est assez intéressant.
Dans tout ce bruit ambiant, ce qui vous intéresse, c'est le non-dit.
Oui. Mm-hmm. Oui. C'est là où il faut faire attention, il faut analyser. Qu'est-ce qui a cloché pour que ça soit pas waouh? Qu'est-ce qui a fait que? Voilà, c'est se dire que c'est extraordinaire. Il y a 4 jours, On a un restaurateur qui est venu, qui a craqué en venant ce que je fais passer une table en cuisine à un moment donné. Ça, pour moi, c'est encore plus extraordinaire le regard dans les réseaux, parce que en fait, c'est un direct live d'un client qui arrive, parce qu'à un moment donné, je l'ai fait passer en cuisine, ils font une petite pause de 5 minutes, on fait un granité, moi je fais un trou normand, parce que c'est ma Normandie. Pendant ce temps-là, je prépare leur plat, ils sont complètement en immersion, et on a eu un restaurateur qui est arrivé et qui a littéralement craqué.
Trop d'émotion.
Et moi, j'ai dit, mais les seules personnes qu'il faut, je veux que mes gars voient ça, mes équipes voient ça, parce que finalement, ça, c'est leur travail, en fait. C'est la constatation de leur travail. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, c'est le 10 mai 2010, une cliente à la Vaille d'Or. Pour moi, c'est le moment le plus grand de ma vie. Mm-hmm. Plus, avec la naissance de mes enfants, mon mariage, c'est le troisième plus grand moment de ma vie. Parce que c'est l'aboutissement émotionnel qu'une image ne pourra jamais retransmettre.
Et alors là, ça va être compliqué, après ça, influenceur ou critique gastronomique, de parler. Ceci dit, François-Régis, ça fait un petit moment que vous êtes dans le métier. Vous avez connu l'avant réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes en plein dedans et vous êtes un pied dans les médias traditionnels, un pied dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé véritablement? Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Avant, on avait un paysage de la critique gastronomique qui était assez bien structuré, historiquement. Il y avait d'un côté les guides de référence, le guide Michelin, évidemment, depuis le début du XXe siècle, Goemio un peu plus tard, et puis d'autres guides qui faisaient autorité, le Champérard, le guide Lebet, plus spécialement axé sur Paris. Moi, quand je suis entré dans le métier de critique gastronomique en 2005, où j'ai été embauché pour m'occuper des pages restaurants de l'Express, c'était ce paysage qui était modelé finalement de façon très... Le paysage était construit. Il y avait donc d'un côté ces guides de référence, et de l'autre, il y avait la critique telle qu'on la pratique dans la presse écrite, avec des supports, des titres qui ont vraiment eu une tradition très forte de critique gastronomique, et c'est toujours le cas. Moi, c'était l'Express, mais il y avait aussi évidemment le Figaro, qui d'ailleurs continue à faire autorité. Mais on était dans cette dualité guide et presse écrite qui finalement avançait un peu dans le même sens. Et c'est vrai qu'après, en évoluant dans le métier, à partir des années 2010, il y a eu véritablement un virage avec l'émergence, l'essor des réseaux sociaux, l'apparition de nouveaux supports spécialisés, des plateformes, et la critique gastronomique a tout simplement adopté un nouveau visage, mais un nouveau visage multifacette. À tel point que d'ailleurs, on a pu se sentir un peu perdu. Moi-même, il a fallu que je m'adapte effectivement à une nouvelle façon de faire mon métier, que je m'adapte aussi à l'apparition de nouveaux médias qui n'existaient pas quelques années plus tôt. Et il est vrai que je pense que ça a eu, en tout cas, comme impact. À mon avis, il y a une facette très positive et puis il y a peut-être aussi un revers de la médaille. L'aspect positif, c'est qu'évidemment, on a tendance à se dire que plus on est nombreux à faire ce métier, plus on a d'occasion donner son jugement, que ce soit à l'écrit, en vidéo, à travers tous les supports possibles, c'est finalement une bonne nouvelle, parce que je considère que la gastronomie française, elle a tiré son excellence en étant positionnée sur deux jambes. Une jambe, c'est la création culinaire, celle qui est assurée par des chefs. Et en même temps, la deuxième jambe, c'est la critique gastronomique, parce qu'on s'est rendu compte que la gastronomie française a toujours été très forte lorsqu'il y avait une critique forte. À partir du moment où on conçoit la critique gastronomique comme un exercice de constructif. C'est pas la critique pour flatter son petit ego, descendre en flèche un chef influent, même s'il peut y avoir ses dérives dans la critique gastronomique. Mais c'était plutôt l'idée que, finalement, la critique gastronomique, c'est porter un discours, verbaliser une création culinaire. Et on s'est rendu compte que les grandes pages de la critique gastronomique, Goemio dans les années 70 en est un brillant exemple, il y avait toujours cette espèce de partenariat tacite, de contrat de confiance entre les chefs d'un côté et les critiques qui étaient là pour faire leur travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le paysage est complètement éparpillé. Et le revers de la médaille, c'est que... moi, je suis très attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je ne suis pas de ceux qui disent « Oh là là, il n'y a que la presse écrite qui est sérieuse, il n'y a aucune déontologie dans les réseaux sociaux ». Mais il est vrai qu'en tout cas, ça a changé la donne, ça fait apparaître de nouveaux visages, de nouvelles façons de verbaliser la cuisine et ça a aussi peut-être engendré quelques dérives. Dans la méthodologie, dans la déontologie. Journalisme, influence... Entre le journalisme et le business, dans quelle mesure cette frontière est-elle franche, poreuse ? C'est des questions qu'on se pose, mais sur lesquelles j'ai pas de réponse immédiate. En tout cas, je sais que le paysage, il y a une tectonique des plaques qui secoue quand même pas mal le milieu.
Mais les réseaux sociaux ont aussi le pouvoir de casser finalement ce côté élitiste que pouvait avoir et la gastronomie et la critique gastronomique. D'ailleurs, c'est votre credo, Constance, hein, rendre les bonnes adresses accessibles. Comme vous avez débuté durant le confinement, votre positionnement, c'est plutôt la street food de qualité, même si ça évolue un peu. Comment vous choisissez les adresses dont vous parlez ?
Alors aujourd'hui, il y a pas mal de restaurants qui me contactent directement parce que ils connaissent mon compte, ils connaissent ce que je fais. Donc il y en a énormément et parmi ces demandes, je peux faire mon choix ou alors contacter moi-même des restaurants et m'y présenter tout simplement anonymement. D'ailleurs, je le fais aussi souvent. Et c'est beaucoup de bouche à oreille, des choses que j'ai entendues, des ouvertures qui ont été documentées. Moi, je lis aussi un petit peu la presse sur Internet, en tout cas. Je fais toujours une recherche Google sur le restaurant. Et ce que je fais aussi, donc, c'est que souvent, je vais voir la page Instagram du restaurant. Je vois s'il a une page Instagram. Et ensuite, je regarde pas forcément ses posts à lui, mais les identifications du restaurant sur Instagram et voir si des gens y sont allés, ont posté, ont dit des choses, etc. Donc, ça permet déjà d'avoir une idée de la réalité de ce que c'est au-delà des photos Instagram qui peuvent paraître parfois très léchées quand elles sont celles du restaurant lui-même avec un photographe, etc.
Et on va voir la question de la photo, c'est une question éminemment importante pour Arnaud Donquel, mais ça amène quand même une question d'un étudiant à Ferrandi. On fait intervenir dans ce podcast à chaque fois les étudiants. C'est Paul Giraud, il a cette question pour vous, il est en troisième année de management hôtelier et restauration.
Alors bonjour, je m'appelle Paul Giraud, j'ai 23 ans, je suis en troisième année donc de management hôtelier de la restauration à Ferrandi, et j'avais une question, est-ce que pour vous les réseaux sociaux ne mettent pas trop en valeur la junk food et la fast food comparé à la gastronomie ?
Alors, Constance, je sens évidemment, vous allez réagir tout de suite à cette question, puis François-Régis après.
Mais il est évident que la food sur les réseaux sociaux, elle a commencé avec l'avènement du hashtag foodporn qui montrait des images dégoulinantes, des burgers énormes, du fromage à n'en plus finir. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça avec des choses qui n'étaient pas forcément bonnes mais belles. Et il y a eu cette énorme tendance qui s'est fait ensuite chassée par d'autres tendances, l'avocado toast, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui postent sur les réseaux sociaux, les gens qui consultent les réseaux sociaux sont pas forcément ceux qui ont les moyens de se rendre dans des restaurants gastronomique tous les jours. Donc, ce qui va être mis en avant, ça va plus être des plats du quotidien. Et aujourd'hui, le burger, il est plus acheté que le jambon beurre en France. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui existent aujourd'hui. Après, je pense qu'on a un peu dépassé le stade des réseaux sociaux. Je pense qu'on est en train de dépasser le règne de l'image et qu'on est en train d'aller vers quelque chose, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, de plus authentique et de plus réel. Et
alors François-Régis, la réponse à cette question de notre étudiant.
Moi, je suis pas vraiment choqué à l'idée qu'on mette en avant tous les genres de cuisine. La chose qui m'importe, c'est de savoir, en pratiquant mon métier de critique gastronomique, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est très bon, très très bon. Pour reprendre d'ailleurs le barème que j'applique dans mon émission sur Paris Première, qui fête sa 10e saison cette année, on est capable d'aller s'attabler aussi bien dans un restaurant étoilé que d'aller voir ce qui se passe dans le registre de la street food, qui est une discipline en vrai avec beaucoup d'énergie en ce moment à Paris.
Et qui a pris beaucoup d'ampleur, même dans la gastronomie, avec la pandémie.
Avec des superbes initiatives. Oui. Je préférerais toujours un burger très bien fait, avec un vrai travail sur chacun des éléments qu'il compose, l'approvisionnement des matières premières. Je préférerais toujours un très très bon burger qu'une mauvaise expérience dans un restaurant étoilé, comme ça peut m'arriver. Moi, je ne fais pas de hiérarchie. On peut s'éclater aussi bien en soulevant la cloche d'un restaurant étoilé, effectivement, qu'en mangeant un délicieux œuf mayo sur un coin de comptoir. Moi, j'ai pas ce problème-là. Après, le vrai travail, et c'est en cela peut-être que mon métier a un sens, sans prétendre évidemment porter le jugement dernier et le jugement absolu, c'est d'avoir assez de savoir-faire, d'expérience, de culture gastronomique pour s'interroger en conscience et avec une certaine déontologie sur telle expérience de street food, de pâtisserie, de gastronomie étoilée, vaut-elle la peine d'être vécue ? C'est la seule chose qui m'intéresse, de se comporter comme un client lambda finalement et d'essayer de rendre service à la communauté qui nous suive pour ne pas se sentir, pour se sentir justement recommandé ou accompagné.
Et en même temps, avec la culture et l'expérience, vous venez de dire que vous avez acquise au fil des années et que des chefs comme Arnaud dont elles reconnaissent et pour qui c'est important. Constance, quand on arrive justement comme ça, jeune influenceuse, comment on crée sa légitimité? J'imagine que ça commence à venir, même si on adore déguster, même si on adore la cuisine, il y a cette légitimité-là qui n'est pas facile à acquérir.
Bien sûr, et je me sens toujours pas forcément très légitime de faire ce que je fais, mais je dirais que le meilleur indicateur sont les retours de ma communauté. Et à force de poster des choses et d'avoir des retours, des gens qui m'envoyaient des messages tous les jours pour me dire « j'ai testé ça grâce à toi et j'ai vraiment adoré, c'était exactement comme tu l'avais décrit, j'avais l'impression de vivre exactement ce que tu as montré, etc. » Donc on se dit « bon, ben si des gens me font confiance et n'ont pas été déçus sur mes conseils, c'est que je dois avoir une bonne manière de montrer les choses et que je dois avoir voilà, une manière de ressentir et d'expliquer aussi qui peut leur parler. Donc pour l'instant, moi, j'ai que ça, en fait, pour me prouver que je suis légitime.
Ça correspond à un certain public, à une certaine clientèle, et c'est peut-être aussi ça l'intérêt et l'importance. Alors finalement, ce qui a changé Arnaud Donquel sur les réseaux sociaux, c'est l'image, cette fameuse photo. Vincent Grégoire nous racontait dans le dernier podcast qu'il était arrivé dans un restaurant, qu'il s'était attablé, qu'il avait commencé à manger et qu'on l'avait interpellé en disant « mais vous prenez pas notre plat en photo ?» C'est terrible, vous imaginez où on en est. Mais alors vous qui êtes un virtuose de la sauce en plus, pour vous, une mauvaise photo vous touche autant qu'une mauvaise critique?
Oui, parce que en fait, ça, le problème de la cuisine très saucée, c'est que c'est pas une fois que le plat est saucé, il n'est pas forcément très beau.
C'est-à-dire il n'est pas très photogénique.
Il n'est vraiment pas photogénique et je l'ai ressenti. Moi, j'ai eu un problème avec quelqu'un d'assez connu, qui a un blog assez connu, où je me suis vraiment fâché parce que je lui avais demandé d'avoir la gentillesse et la délicatesse de prendre les photos juste avant la sauce ou au moment du début du sauçage. Parce qu'un plat saucé, on peut expliquer qu'il est saucé à partir du moment... Mais à partir du moment qu'on fait un travail, en fait, c'est toujours le boutisme du travail. Le boutisme de on a tous notre boutisme, en fait. Et moi, je lui ai demandé gentiment pourquoi. Parce qu'au-delà de l'attrait commercial, là, on est plus sur un acteur culinaire de la profession. Et à travers l'image qu'il va redonner... Même s'il écrit des mots élogieux, même s'il écrit des mots bons, il est aussi notre vitrine, nous, dans notre recrutement. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui vont vouloir venir travailler et de se dire « Ah, ouais, il y a la photo que lui, il poste sur son Instagram, c'est exactement pareil que ce que vous dites, elle est léchée, par contre, la réalité, derrière, c'est ça. » Et donc, le problème, c'est qu'un plat saucé, quand il est saucé et qu'on a commencé à mettre un coup de fourchette, c'est même répugnant. Ça peut être répugnant. Le problème, c'est que derrière... Nous, on a besoin, sur certains secteurs, c'est pas de la clientèle qu'on va chercher, c'est aussi des ambassadeurs qui vont vouloir nous suivre, qui vont dire « waouh, ce qu'il fait, c'est super ». Il n'y a pas que les mots, il y a aussi l'œil. Moi, je n'ai pas le problème d'avoir besoin de quelque chose de léché, mais de sentir que quand un influenceur ou un blogueur prend une photo et qu'il distribue à sa communauté, qu'elle soit quand même avec l'idée du respect du travail artisanal de l'auteur. Et moi, j'ai pas de problème à ce qu'un client aussi, je demande à mes équipes, quand ils voient des clients prendre des photos, on leur dit, on le voit tout de suite, hein, ça démarre à la muse-bouche, mais on leur dit, voilà, pour votre souvenir, prenez la photo juste avant que le plat soit saucé, il ne sera que plus agréable pour votre souvenir et pour pouvoir le montrer à vos amis. Et c'est un conseil de bonheur.
Ceci dit, vous n'imaginez pas les plats en fonction de leur Instagrammabilité ou de leur photogénie?
Ah non, surtout pas.
Est-ce que certains chefs, François-Régis, font ça?
Ben en tout cas, et ils ont raison d'une certaine manière, il y a une prise de conscience des chefs dans le milieu sur l'impact énorme qu'a une photo, à plus forte raison lorsqu'elle est diffusée sur un réseau social avec de la part de quelqu'un qui a beaucoup de followers. Donc aujourd'hui, les chefs, ils sont pris en tenaille, c'est-à-dire qu'ils se sentent évidemment scrutés, épiés, surveillés par tous les bouts, par de la vidéo, par de la photo, par du texte, et ça les rend forcément parfois un peu parano et forcément vigilants, parce que moi, je peux comprendre qu'un chef qui voit son travail effectivement terni par une photo qui n'a pas la bonne luminosité ou qui n'est pas prise au bon moment du service, etc., ça peut avoir un effet assez dévastateur. Et il est évident que les chefs sont forcément... obligé de développer une vigilance par rapport à ça. C'est ce qui rend d'ailleurs leur métier encore plus complexe. Le fait qu'aujourd'hui, il faut avoir affaire en fait à des critiques, des influenceurs, des clients qui deviennent des critiques amateurs. Et voilà. C'est
ça. Alors d'ailleurs, même Arnaud Donquel, à un moment donné, a craqué. Vous avez un compte Insta depuis 2019. C'est vous-même qui l'alimentez, ça vous est dit?
Ouais.
Vous faites fort, c'est vous-même qui l'alimentez, vous avez près de 60 000 abonnés.
Avec justement, je le défends, c'est-à-dire que je le défends. C'est que moi j'ai un CAP, donc avec des notes de français qui ont toujours été catastrophiques, et je fais des fautes d'orthographe. Mais j'y tiens parce qu'en fait, il est hors de question que je mente en fait. Il est hors de question, des fois ma femme me reprend et je corrige, mais parce que voilà, mais souvent on me dit voilà, mais pour moi c'est important parce que c'est la réalité de ce qu'on est en fait, et surtout pas tricher là-dessus. Et effectivement, et pourtant je suis quelqu'un qui est capable de faire des pages d'écriture avec des verbes parce que j'adore la poésie, mais au-delà de ça capable de faire plein de fautes d'orthographe.
Quand vous êtes passé à Ferrandi, on vous a pas appris les réseaux sociaux. Peut-être que votre fils qui y est désormais, Maxence, il va enfin avoir une petite formation. Je crois que pour certains masters, il commence à travailler là-dessus, parce que il y a l'école Top Chef aussi. C'est l'école Top Chef qui a tout changé. Quand on voit le succès de Maurice Sacco, on est à 225 000 abonnés sur Insta et sur TikTok, les chefs les plus suivis. Diego Alari, Xavier Pincemin, ce sont tous les deux des chefs Top Chef. Donc il y a ça aussi qui a énormément changé. Malheureusement, il faut qu'on avance. Mais justement, rapidement, Constance, vous avez écrit un mémoire de fin d'études sur le sujet. Comment le système de prescription de la food a évolué avec l'arrivée du digital? Alors, en 10 secondes, votre conclusion.
En 10 secondes, ça va être compliqué. Mon constat était le même que François-Régis Gaudry, à savoir qu'on est passé d'un monde très concentré et élitiste à un monde satellisé avec une multitude d'acteurs qui pouvaient être des gens lambda, comme nous tous, qui se permettaient de donner leur avis. Et ma conclusion, c'était qu'aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a, notamment à Paris, dans la gastronomie, avec la dynamique de ce secteur et avec le nombre d'acteurs, il est, je pense, aujourd'hui nécessaire, quand on ouvre un restaurant, quand on veut se faire connaître en premier, quand on n'est pas encore connu, quand on n'est pas étoilé, etc., de faire appel aux réseaux sociaux, de promouvoir, de faire des vidéos ou d'inviter des gens. Ça peut créer une émulsion qui sera peut-être de courte durée, et c'est là pour moi qu'interviennent les autres instances, à savoir les guides et les critiques, qui vont eux légitimer dans le temps la présence d'un restaurant, la réputation d'un chef. Et voilà, et je pense aussi qu'il y a deux marchés, il y a une petite segmentation, et que pour ce qui est gastronomique, la presse et les guides ont quand même toujours l'ascendant.
De beaux jours devant eux. D'ailleurs, Arnaud Donquel, finalement, vous êtes un peu le Jean-Jacques Goldman de la cuisine. Brillant, talentueux, mais très discret, il reste la personnalité préférée des Français au fil des années.
Hein? C'est bien, très bien vu. Moi, j'adhère tout à fait à ce portrait.
C'est Arnaud qui me l'a soufflé. Hein. Vous dites, vous, ça ne m'intéresse pas d'épater, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion.
Oui.
Ben voilà. Tout est dit. Et en même temps, vous êtes reconnu par tout ce que je racontais en tout début d'émission.
Oui, mais parce que je ne me vois pas me prendre en photo et mettre... Et d'ailleurs, les seules photos sur mon Instagram qui sont où c'est moi qui ressort, il y a toujours un collaborateur, parce qu'en fait, c'est d'abord un collaborateur que je veux mettre en avant, et, ou un ami, ou si vraiment c'est quelqu'un de la com qui est à côté de moi, qui m'a conseillé de le mettre pour faire passer un message de recrutement ou des trucs comme ça, mais par contre c'est quelque chose qui m'insupporte. Après j'essaie toujours d'avoir des photos du travail de mes gars. Je fais très attention à ce que la photo des plats soit léchée, parce que je veux, en fait, le mot léché, je le reprends parce qu'il y a une réalité entre la réalité, c'est que quand il est léché, on est plus près de la perfection de l'œil humain, de l'œil humain. Et c'est pour ça que je fais très attention à la photo, parce que on n'a pas un photographe, et je fais attention parce que derrière je retranscris pas mon travail. Parce que c'est pas mon travail, c'est le travail d'une équipe. Et au-delà de ça, que l'assiette soit pas belle ou pas beau, l'image qu'elle redonne, encore une fois, au-delà de ça, d'une personne, c'est pas ça qui est important. Je travaille pas pour que le plat soit beau esthétiquement quand je fais un plat, parce que je fais une cuisine de sauce. Donc clairement, je prends plus de risques à ce que ce soit photographié, que ce soit une catastrophe par le commun des mortels. Mais en fait, c'est comme une personne. C'est-à-dire que c'est vouloir Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que aujourd'hui, c'est quoi être une belle personne. C'est un stéréotype qu'on voit dans les magazines ou c'est vraiment profondément ce qu'il y a à l'intérieur. Et un plat, c'est exactement pareil. C'est quand on met la cuisine, c'est la profondeur émotionnelle de l'âme d'un plat quand on met une cuillère. En fait, c'est pas ce qu'elle représente visuellement, c'est ce qu'elle représente intérieurement.
Magnifique. Constance, comment vous voyez évoluer les choses, là aussi rapidement, qu'aimeriez-vous faire dans les années qui viennent ?
Je voulais juste revenir sur l'émotion et sur la place de l'image, parce que moi j'ai fait une vidéo dans le restaurant d'Adrien Cachot au Perchoir Ménilmontant, et c'est un menu mystère, un menu à l'aveugle, et en fait je voulais partager mon expérience mais je ne voulais pas spoiler l'expérience des consommateurs, et du coup j'ai pas du tout montré les plats, et en fait j'ai juste filmé mes réactions et mes émotions, et je pensais que ça allait pas du tout marcher, et en fait c'est une de mes vidéos qui a le mieux performé, et il y a énormément de gens qui m'ont dit grâce à ta vidéo j'ai été convaincue, j'ai pas eu besoin de voir les plats mais juste de voir l'émotion.
Ça sert les cours de théâtre. Pardon, je sais que c'est authentique.
Mais
c'est
voilà, Et donc dans quelques années, moi j'aimerais quand même effectivement travailler pour un média traditionnel, parce que même si c'est les réseaux qui m'ont propulsée extrêmement rapidement dans ce monde, je sais que c'est quelque chose qui est quand même instable, imprévisible et souvent éphémère.
Comme quoi, c'est intéressant. Hein. On va terminer là-dessus. Point de querelle des anciens et des modernes. Mais attention avec l'image à ne pas perdre l'essentiel, le goût et le travail et l'émotion derrière l'assiette. Merci beaucoup à tous les trois. Arnaud Donquel, François-Régis Gaudry, Constance. Merci beaucoup à vous, Hungry Consti, hein, pour vous retrouver sur Instagram. Merci à François Slama qui a réalisé ce podcast et aux équipes de Ferrandi. Allez, pensez à prendre rendez-vous pour le prochain podcast. À demain. Pourquoi l'hôtel post-Covid doit être bien plus qu'un hôtel. À bientôt.